à propos de Galadriel et de Celeborn. Le texte qui porte ce titre est une brève et hâtive ébauche de composition très rudimentaire qui n'en est pas moins l'une des rares sources narratives permettant de reconstituer les événements qui survinrent à l'ouest de la Terre du Milieu jusqu'à la défaite de Sauron et son expulsion de l'Eriador en l'année 1701 du Deuxième Âge. Outre ce texte, nous disposons de peu d'indications au-delà des brèves et laconiques entrées du Conte des Années et du récit beaucoup plus général et sélectif publié dans le Silmarillion, les Anneaux du Pouvoir et le Troisième Âge. Il est certain que ce présent texte a été composé après la publication du Seigneur des Anneaux, et ce, à la fois parce qu'il est fait référence à cet ouvrage, et parce que Galadriel y est donnée pour fille de Finalfin et sœur de Finrod Felagund. Et ce sont là les noms attribués tardivement à ces princes, noms qui furent introduits dans l'édition révisée. Le texte comporte beaucoup de corrections, et il n'est pas toujours possible de déterminer ce qui appartient au premier jet et ce qui a été surajouté bien plus tard sur le manuscrit. C'est le cas des références à Amroth en tant que fils de Galadriel et de Celeborn. Cependant, je suis quasiment certain que chaque fois que survient l'une de ces références, il s'agit bien d'une structure nouvelle, postérieure à la composition du Seigneur des Anneaux, car si à l'époque où le livre fut écrit, Amroth avait été considéré comme le fils de Galadriel et Celeborn, mention en aurait certainement été faite quelque part. Il importe de noter que non seulement il n'est pas question dans ce texte de l'interdit pour Galadriel de retourner dans l'Ouest, mais d'après un passage au début du récit, il semble qu'une telle idée n'existait même pas dans l'esprit de l'auteur à l'époque. Alors que plus avant, dans le cours du récit, le séjour prolongé de Galadriel en Terre du Milieu après la défaite de Sauron en Eriador est imputé à son sentiment que son devoir lui fait obligation de rester tant que son ennemi n'est pas définitivement vaincu. C'est là le principal argument favorable au point de vue hésitant que j'ai exprimé plus haut, à savoir que le récit de l'interdit est postérieur à la composition du Seigneur des Anneaux. Voir aussi un passage dans l'histoire de l'Elessar plus loin. Voici donc ce que dit ce texte, assorti de quelques commentaires disséminés. Galadriel était fille de Finalfin et sœur de Finrod Felagund. Elle fut la bienvenue au Doriath parce que sa mère et Arwen, fille d'Olwë, étaient Telerin et la propre nièce de Thingol. Et parce que les gens de Finalfin n'avaient point participé au massacre fratricide perpétré à Alqualondë. Et elle se lia d'amitié avec Méliane. Au Doriath, elle rencontra Celeborn, petit-fils d'Elmo, le frère de Thingol. Par amour pour Celeborn, qui refusait de quitter la Terre du Milieu, et aussi mû probablement par son propre orgueil car elle avait été parmi les plus enthousiastes à l'idée de s'aventurer sur cette terre, elle ne retourna pas dans l'Ouest après la chute de Melkor, mais franchit les Ered Lindon avec Celeborn et vint en Eriador. Ils atteignirent cette région avec une suite nombreuse de Noldor et aussi d'elfes gris et d'elfes verts, et pour un temps, ils s'établirent aux environs du lac Nenuyal, le lac du crépuscule au nord du comté. Celeborn et Galadriel vinrent à être considérés comme le seigneur et la dame des Eldar en Eriador, même par les compagnies errantes d'elfes d'origine Nandorin qui n'étaient jamais allés à l'ouest des Ered Lindon et n'étaient pas descendus en Ossiriand. Durant leur séjour dans les environs du Nenuyal, naquit leur fils Amroth, entre les années 350 et 400. Le temps et le lieu de la naissance de Celebrian, soit à la même époque ou plus tard en Eregion, ou même plus tard encore en Lorien, ne sont pas établis de manière définitive. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, Galadriel se rendit compte qu'à nouveau, comme durant les jours anciens, lors de la captivité de Melkor, Sauron avait été laissé derrière. Ou plutôt, comme Sauron n'était pas connu alors sous un nom unique, et on n'avait pas encore décelé dans ses agissements l'action d'un seul et unique esprit malfaisant, principal agent de Melkor, elle perçut comme une volonté maléfique à l'œuvre de par le monde, et qui semblait puiser sa source plus loin à l'est, au-delà de l'Eriador et des montagnes de brume. Et c'est pour cela que Celeborn et Galadriel se dirigèrent vers l'est, aux environs de l'année 700 du Deuxième Âge, et fondèrent le principal, mais non le seul, royaume Noldorin, Eregion. Il se peut que Galadriel ait choisi ce lieu parce qu'elle connaissait les nains de Khazad-dûm, la Moria. Il y a toujours eu, et il y avait encore quelques nains sur le versant oriental des Ered Lindon, où s'élevaient leurs anciennes demeures fortifiées, Nogrod et Belegost, à courte distance du lac Nenouyal. Mais ils avaient transféré le gros de leurs forces à Khazad Dûm. Celeborn n'avait guère d'amitié pour les nains, de quelque ascendance qu'ils soient, comme il devait le montrer à Gimli en Lothlorien. Et il ne leur pardonna jamais le rôle qu'ils jouèrent dans la ruine du Doriath, même si seules les troupes de Nogrod avaient pris part à l'assaut et elles furent décimées dans la bataille de Sarn Athrad. Les nains de Belégost furent saisis d'effroi face à ce désastre et ses possibles conséquences, et cela hâta leur départ vers l'est pour gagner Khazad Dûm. On peut donc penser que les nains de la Moria étaient innocents de la ruine du Doriath et n'éprouvaient aucune hostilité envers les elfes. De toute manière, Galadriel voyait beaucoup plus loin là-dessus que Celeborn, et elle comprit d'emblée que la Terre du Milieu ne serait sauvée de tous les résidus maléfiques que Morgoth avait laissés dans son sillage que par l'union de tous les peuples qui lui étaient hostiles et qui, pour des raisons qui leur étaient propres, s'opposaient à lui comme ils le pouvaient. Et elle considérait les nains également avec l'œil d'un chef de guerre, voyant en eux les meilleurs guerriers à opposer aux orques. De plus, Galadriel était une Noldo, et elle avait une sympathie naturelle pour la tournure d'esprit des nains et pour leur grand amour des arts manuels, une sympathie bien plus grande que n'en éprouvaient de nombreux Eldar. Les nains étaient les enfants d'Aulë, et Galadriel, comme d'autres parmi les Noldor, avait reçu au Valinor l'enseignement d'Aulë et de Yavanna. Galadriel et Celeborn avaient dans leur entourage un artisan Noldorin nommé Celebrimbor. On le donne ici pour un des survivants de Gondolin et l'un des plus grands maîtres artisans de Turgon. Mais le texte fut corrigé par la suite, faisant de lui un descendant de Fëanor, comme il est dit dans l'appendice B au Seigneur des Anneaux, mais uniquement dans l'édition révisée. Et il est question de lui plus en détail dans le Silmarillion, où il est donné pour fils de Curufin, le cinquième fils de Fëanor. On y lit que Celebrimbor se brouilla avec son père et resta à Nargothrond lorsque Celegorm et Curufin en furent chassés. À la façon des nains, Celebrimbor nourrissait une obsession pour les travaux d'artisanat. Et bientôt, il devint le premier artisan d'Eregion, se liant étroitement d'amitié avec les nains de Khazad Dûm et parmi eux, avec Narvi, qui devint son plus grand ami. Sur l'inscription au-dessus de la porte ouest de la Moria, Gandalf lit les mots « Im Narvi hein ekant, Celebrimbor a Eregion, Teitand i Thiwin. » Moi, Narvi, je les ai faites, Celebrimbor de Houssière a dessiné ces signes. Dans la Fraternité de l'Anneau, 2-4. Les elfes et les nains tiraient grand profit mutuel de cette collaboration. Et les Eregion devint bien plus puissant et Khazad Dûm bien plus splendide que si chacun était resté de son côté. Ce récit des origines de l'Eregion s'accorde avec ce qui est raconté dans les Anneaux du Pouvoir, le Silmarillion. Mais ni là, ni dans les brèves références données dans l'appendice B du Seigneur des Anneaux, n'est-il fait mention de la présence de Galadriel et de Celeborn. Et même dans le second ouvrage, et de nouveau seulement dans l'édition révisée, Celebrimbor est donné pour seigneur de l'Eregion. La construction de la principale ville de l'Eregion, Ost-in-Evil, fut commencée vers l'année 750 du Deuxième Âge, date donnée dans le compte des années pour la fondation de l'Eregion par les Noldor. Sauron eut vent de ses entreprises et s'en accrut la peur que lui inspirait la venue des Númenoréens au Lindon et sur les côtes plus au sud, et leur amitié avec Gil-galad. Et il entendit parler également d'Aldarion, le fils de Tar-Meneldur, roi de Númenor, devenu à présent un grand constructeur de navires, qui amenait ses vaisseaux mouillés loin au sud jusqu'au Arad. C'est pourquoi Sauron laissa tranquille l'Eriador pour un temps, et il choisit le pays de Mordor, tel devait être son nom plus tard, pour sa place forte d'où résister au débarquement des Númenoréens. Fait daté aux environs de l'an 1000 dans le compte des années. Lorsqu'il se sentit en sécurité, il envoya des émissaires en Eriador et finalement, vers l'année 1200 du Deuxième Âge, il vint en personne, ayant revêtu la plus belle apparence qu'il se put donner. Mais dans l'intervalle, la puissance de Galadriel et de Celeborn s'était accrue, et aidée en cela par son amitié avec les nains de la Moria, Galadriel avait pris contact avec le royaume Nandorin de la Lorinand sur l'autre versant des montagnes de brume. C'était un royaume peuplé par les elfes qui, abandonnant les Eldar lors de leur grande marche depuis Cuvienen, s'étaient établis dans les forêts du Val de l'Anduin. Et ils s'étendaient jusqu'aux rives boisées du grand fleuve, englobant la région où devait s'élever par la suite Dol Guldur. Ces elfes, qui ne se reconnaissaient ni princes ni souverains, vécurent insoucieux tant que le pouvoir de Morgoth demeura concentré au nord-ouest de la Terre du Milieu. Mais de nombreux Sindar et Noldor vinrent s'établir parmi eux, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à se sindariser sous l'influence de la culture beleriandique. Le récit reste obscur quant à l'époque de ces migrations. Il se peut qu'ils fussent venus de l'Eregion en passant par Khazad-dûm, et cela sous les auspices de Galadriel. Les efforts de Galadriel pour déjouer les machinations de Sauron furent couronnés de succès en Lorinand, tandis que Gil-galad, pour sa part, ferma les portes du Lindon aux émissaires de Sauron et à Sauron lui-même. Un épisode relaté plus en détail dans les Anneaux du Pouvoir. Mais Sauron réussit mieux auprès des Noldor de l'Eregion et plus particulièrement auprès de Celebrimbor, qui en son cœur se voulait l'égal de Fëanor tant pour sa renommée que pour son savoir-faire. La manipulation des forgerons de l'Eregion par Sauron et la manière dont ce dernier se faisait appeler Anatar, seigneur des dons, sont relatés dans les Anneaux du Pouvoir, mais il n'y est pas fait mention de Galadriel. En Eregion, Sauron se présenta comme un émissaire des Valar, le renvoyé en Terre du Milieu, anticipant ainsi la venue des Istari, ou bien ayant reçu ordre d'y demeurer afin de porter secours aux elfes. Il comprit sur le champ que Galadriel se révélerait son plus redoutable ennemi et son principal obstacle. Aussi chercha-t-il à l'apaiser en endurant son dédain avec apparence de patience et de courtoisie. Cette rapide ébauche ne nous dit pas pourquoi Galadriel méprisait Sauron, à moins qu'elle n'ait effectivement percé à jour son déguisement, ni non plus si elle avait pénétré effectivement sa véritable nature, pourquoi elle l'autorisait à demeurer en Eregion. Sauron usa de tout son art sur Celebrimbor, ainsi que sur ses compagnons forgerons, car Celebrimbor avait fondé une compagnie ou confrérie très puissante en Eregion, les Gwaith Ymirdain. Mais il travaillait en secret à l'insu de Galadriel et de Celeborn. Bientôt, Sauron exerçait son influence sur les Gwaith Ymirdain, car au début, ils tirèrent grand profit de ses enseignements touchant les pratiques secrètes de leur art. Et si forte fut son emprise sur les Myrdain, qu'à la longue, il les persuada de se révolter contre Galadriel et Celeborn, et de s'emparer du pouvoir en Eregion. Et cela eut lieu entre les années 1350 et 1400 du Deuxième Âge. Sur ce, Galadriel quitta l'Eregion et se rendit en Lorinand en passant par Khazad-dûm, et elle emmena avec elle Amroth et Celebrian. Mais Celeborn, qui se refusait à pénétrer les demeures des nains, resta en Eregion, où il était désormais méprisé par Celebrimbor. En Lorinand, Galadriel assuma le pouvoir et établit des défenses contre Sauron. Sauron lui-même devait abandonner l'Eregion vers l'année 1500, après que les Myrdain eurent entrepris la fabrication des Anneaux du Pouvoir. Or, Celebrimbor n'avait pas été corrompu, ni en son cœur, ni en son allégeance. Mais il avait accepté Sauron pour ce qu'il prétendait être. Et lorsqu'il finit par découvrir l'existence de l'Anneau unique, il se révolta contre Sauron, puis se rendit en Lorinand solliciter à nouveau les conseils de Galadriel. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû détruire tous les Anneaux du Pouvoir, mais ils n'en eurent point la force. Galadriel lui conseilla de cacher les trois Anneaux des Elfes, de ne jamais y recourir et de les disperser loin de l'Eregion où Sauron les croyait détenus. Ce fut à cette époque qu'elle reçut Nenya, l'Anneau Blanc, des mains de Celebrimbor, et en vertu de son pouvoir, le royaume de la Lorinand gagna en puissance et en beauté. Mais l'anneau exerça également sur Galadriel un pouvoir imposant et imprévu, car il avivait en elle le désir latent de la mer et d'un retour dans l'ouest, si bien que décrut sa joie en Terre du Milieu. Suivant son conseil, Celebrimbor envoya l'anneau de l'air et l'anneau du feu loin de l'Eregion, et il les confia à Gil-galad au Lindon. On lit ici que vers cette même époque, Gil-galad donna Narya, l'anneau rouge, à Círdan, seigneur des Havres, mais plus avant dans le récit, une note marginale indique qu'il l'aurait gardé par-devers lui jusqu'à son départ pour la guerre de la Dernière Alliance. Lorsque Sauron apprit le repentir et la rébellion de Celebrimbor, son masque tomba et son courroux fut dévoilé. Et rassemblant une puissante armée, il traversa le Calenarthon, Rohan, pour envahir l'Eriador, en l'année 1695. Lorsque Gil-galad apprit la chose, il envoya un fort détachement sous le commandement d'Elrond, le semi-elfe. Mais Elrond avait une longue route à faire, et Sauron obliqua vers le nord et marcha droit sur l'Eregion. Ses éclaireurs et son avant-garde étaient déjà en vue lorsque Celeborn fit une sortie et les refoula. Mais bien qu'il parvint à se joindre aux forces d'Elrond, elles ne purent revenir en Eregion, car l'armée de Sauron était beaucoup plus considérable que leurs forces mêmes réunies, si considérable d'ailleurs que Sauron fut capable de les tenir à distance et d'investir étroitement Eregion. Finalement, les assaillants envahirent Eregion, où ils semèrent la ruine et la dévastation, et ils s'emparèrent de ce qui avait été l'objectif principal de Sauron, la maison des Myrdaine, où se trouvaient leurs forges et leurs trésors. Celebrimbor se défendit avec l'énergie du désespoir, affrontant en personne Sauron sur les marches de la grande porte des Myrdaine. Mais il fut saisi et emmené prisonnier, et la maison fut pillée de fond en comble. Sauron prit les 9 anneaux et quelques œuvres mineures des Myrdaine, mais il ne put trouver ni les 7 ni les 3. Alors il fit torturer Celebrimbor, et de lui, il apprit où avaient été cachés les 7. Cela, Celebrimbor le révéla parce que ni les 7 ni les 9 n'avaient pour lui l'importance des 3. Car les 7 et les 9 avaient été forgés avec l'aide de Sauron, alors que Celebrimbor avait façonné les 3 tout seul, en usant d'un pouvoir différent et à de toute autre fin. Il n'est pas dit explicitement ici que Sauron à cette occasion prit possession des 7 anneaux, bien que cela semble clairement impliqué. Dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux, il est fait état d'une croyance répandue parmi les nains du peuple de Durin, selon laquelle Durin III, roi de Khazad-dûm, tenait son anneau des elfes forgerons en personne et non point de Sauron. Mais dans le présent texte, il n'est pas dit comment les 7 anneaux vinrent en possession des nains. Sauron ne put rien tirer de Celebrimbor au sujet des 3 anneaux et il le fit mettre à mort. Cependant, il devina la vérité, que les 3 anneaux avait été commis à la garde de seigneur elfe et qu'il devait s'agir de Galadriel et Gil-galad. Et dans un noir courroux, il retourna au combat. Le corps de Celebrimbor, transpercé de flèches d'orques, fut planté en haut d'une perche telle une bannière, et Sauron s'attaqua aux forces d'Elrond. Ce dernier avait rallié les quelques elfes de l'Eregion qui s'étaient échappés, mais il n'était pas en mesure de résister à l'assaut. Et sans doute, Elrond aurait-il été écrasé si l'armée de Sauron n'avait pas été assaillie sur son arrière-garde. Car Durin avait envoyé un détachement de nains depuis Khazad-dûm, et avec eux marchaient les elfes de la Lorinand, commandés par Amroth. Elrond parvint à se dégager, mais il fut repoussé au loin vers le nord, et ce fut à cette époque, en l'année 1697 selon le compte des années, qu'il établit un refuge et une place forte à Imladris, Fandeval. Sauron abandonna la poursuite d'Elrond et se retourna pour combattre les nains et les elfes de la Lorinand, qu'il finit par repousser. Mais les portes de la Moria étaient fermées et il ne put y entrer. Après quoi Sauron devait poursuivre la Moria de sa haine. Et aux orques, il fut enjoint de harceler les nains en toute occasion possible. Et voici que Sauron entreprit de conquérir l'Eriador. La Lorinand pouvait attendre. Et tandis qu'il ravageait le pays, massacrant ou expulsant tous les petits groupes d'hommes et traquant les quelques elfes restants, ils furent nombreux à fuir vers le nord pour grossir les rangs de l'armée d'Elrond. Or, Sauron avait pour objectif immédiat de prendre le Lindon, où il pensait avoir le plus de chances de s'emparer de l'un ou plus des 3 anneaux. Et dans cette intention, il rassembla son armée éparpillée et marcha vers l'ouest en direction du pays de Gil-galad, dévastant tout sur son passage. Mais son armée fut affaiblie par la nécessité de laisser un fort détachement pour contenir Elrond et l'empêcher de fondre sur son arrière-garde. Or donc, déjà depuis de longues années, les Númenoréens avaient accosté au Havre Gris et ils y avaient reçu bon accueil. Sitôt que Gil-galad se prit à craindre que Sauron n'envahisse l'Eriador et ne déclare une guerre ouverte, il envoya des messages à Númenor, et sur les côtes du Lindon, les Nouménoréens se mirent à faire des préparatifs de guerre et des réserves. Lorsqu'en l'année 1695, Sauron entra en Eriador, Gil-galad sollicita l'aide de Nouménor. Et le roi Tar-Minastir envoya une puissante flotte, mais elle subit maint retard et ne toucha les côtes de la Terre du Milieu qu'en l'année 1700. Or, entre-temps, Sauron avait déjà étendu sa conquête à tout l'Eriador, à l'exception du refuge d'Imladris, toujours assiégé, et il avait atteint le fleuve Lûn. Et il avait réquisitionné des forces fraîches en provenance du sud-est qui avaient déjà atteint l'Enedweth, au gué de Tharbad, lequel était à peine défendu. Gil-galad et les Nouménoréens tenaient le Lûn afin d'assurer coûte que coûte la défense des Havres Gris et la puissante armée de Tar-Minastir arriva juste à point. Les troupes de Sauron furent décimées et repoussées. L'amiral nouménoréen, Kiriatur, envoya quelques-uns de ses navires aménager un point de débarquement plus au sud. Sauron fut chassé au loin, en direction du sud-est, après le grand massacre du gué de Sarn, le gué de Balanduin. Et bien que ses renforts l'eussent rejoint à Tharbad, il vit de nouveau son arrière-garde soudainement confrontée aux troupes nouménoréennes, car Kiriatur avait mené à terre un fort détachement à l'embouchure de Gwathlo, Griffleur, où se trouvait un petit port nouménoréen. Il s'agissait de Vinyalondé, fondé par Tar-Aldarion, et qui devait s'appeler plus tard Londaer. La bataille du Gwathlo marqua la déroute complète de Sauron qui s'échappa lui-même de justesse. Le reliquat de ses forces fut assailli à l'est du Calenardon, et flanqué d'un unique garde du corps, il prit la fuite jusqu'à cette contrée appelée par la suite Dagorlad, la plaine de la bataille, d'où, brisé et humilié, il s'en retourna au Mordor, jurant vengeance contre Númenor. L'armée qui assiégeait Imladris fut prise entre Elrond et Gil-galad et détruite jusqu'au dernier. Il ne restait plus d'ennemis en Eriador, mais le pays était quasiment dévasté. C'est à cette époque que se réunit le premier conseil et il fut décidé de maintenir une place forte elfique dans l'est de l'Eriador, à Imladris et non en Eregion. Et c'est en ce temps-là également que Gil-galad donna Vilia, l'anneau bleu, à Elrond et en fit son régent en Eriador. Mais il garda par devers lui l'anneau rouge et ce jusqu'au moment où, quittant le Lindon pour la dernière alliance, il le remit à Círdan. Des années durant, les terres de l'Ouest connurent la paix et eurent loisir de panser leurs blessures. Mais les Nouménoréens avaient goûté au pouvoir en Terre du Milieu, et depuis lors, ils s'en vinrent fonder des colonies permanentes sur les côtes occidentales. La date donnée est environ 1800 dans le compte des années. Et ils devinrent ainsi bien trop puissants pour que Sauron risquât de s'aventurer à l'Ouest, hors du Mordor, et ce, pour de longues années. Le récit se termine en se concentrant à nouveau sur Galadriel, et nous y apprenons que le languir de la mer s'émut si fort en elle qu'elle décida de quitter la Lorinand et d'aller vivre sur les rivages de la mer, bien qu'elle jugeât qu'il était de son devoir de demeurer en Terre du Milieu tant que Sauron n'était pas vaincu. Elle confia la Lorinand à Amroth, et franchissant à nouveau la Moria avec Celebrian, elle vint à Imladris en quête de Celeborn. Et, semble-t-il, elle l'y trouva, et ils y vécurent ensemble un long temps. C'est d'ailleurs là qu'Elrond entrevit pour la première fois Celebrian et qu'il se prit d'amour pour elle, bien qu'il n'en souffle un mot. Ce fut dans le temps où Galadriel séjournait à Imladris que délibéra le conseil dont il a été question plus haut. Mais par la suite, il n'existe aucune information quant à la date, Galadriel et Celeborn, accompagnés de Celebrian, quittèrent Imladris et gagnèrent les terres peu populeuses entre l'embouchure du Gwathlo et l'Ethir Anduin. Ils vécurent à Belfalas, dans ce lieu qui, plus tard, devait s'appeler Dol Amroth. Leur fils Amroth s'y rendait parfois leur faire visite, et des elfes Nandorin de la Lorinand vinrent aussi grossir leur nombre. Et le troisième âge était déjà fort avancé, et Amroth perdu, et la Lorinand en grand péril, lorsque Galadriel se résolut à y retourner, et c'était en l'année 1981. Ici prend fin le texte à propos de Galadriel et de Celeborn. On notera qu'en l'absence de toute indication contraire dans Le Seigneur des Anneaux, les commentateurs ont pu supposer tout naturellement que Galadriel et Celeborn avait passé la deuxième moitié du deuxième âge et le troisième en son entier, en Lothlorien. Mais ce ne fut pas le cas, bien que leur histoire, telle qu'elle est présentée dans « À propos de Galadriel et de Celeborn », dut subir de nombreux remaniements, comme nous allons voir.